Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Dieu acceptera-t-il dans son royaume toute personne qui vit selon sa conscience, pour autant qu'elle soit sincère, bonne et honnête? De nombreux chrétiens s'imaginent que les bonnes œuvres n'ont rien à voir avec le salut éternel. Ils croient que le simple fait de professer le Christ leur assurera un jour la vie éternelle. Accepter la grâce divine et croire en Christ suffisent pour être sauvés, pensent-ils. Si une certaine valeur morale est la seule condition requise, pourquoi l'apôtre Pierre affirme-t-il au sujet du Christ « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » S'il nous suffit de croire que le Christ est notre Sauveur pour être sauvés, pourquoi l'apôtre Paul écrit-il « Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Si les bonnes œuvres suffisent, pourquoi Jésus a-t-il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » S'il suffit de croire en Dieu, pourquoi Jacques écrit-il « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient en Dieu et pourtant, ils ne seront pas sauvés. » Examinons la foi. La plupart des chrétiens ont des difficultés à éprouver une foi véritable. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas cette foi vivante, cette confiance aveugle en Dieu et ils se sentent frustrés, parfois même découragés. Lisons la définition que Paul donne. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc une confiance ferme, aveugle même, c'est la conviction absolue que ce qui est notre espérance, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas encore, existe déjà ou existera bientôt. C'est une certitude absolue que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. La foi nécessaire à notre salut permet de comprendre que les Écritures sont véritables, certaines, fiables, et que Jésus est le Messie qui a payé l'amende de tous nos péchés, nous permettant ainsi d'être sauvés par lui et rien que par lui. Comment obtenir une telle foi? Paul écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi est donc le résultat de la connaissance des Écritures. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut se forger par ses pensées, par un raisonnement, c'est un don de Dieu, c'est une des qualités du fruit de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle Paul n'hésite pas à écrire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le jour de la Pentecôte, la foule demanda à Pierre ce qu'elle devait faire. Il répondit « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voici les conditions à remplir pour recevoir le salut. Se repentir, c'est reconnaître devant Dieu que l'on a péché en transgressant sa loi, et surtout c'est changer son mode de vie, afin de se détourner du péché. Ensuite, vient le baptême et la réception du Saint-Esprit par l'imposition des mains, selon les exemples qui nous sont donnés dans la Bible. Qu'en est-il de la grâce? La grâce est un sujet très sérieux. La grâce est une faveur, un pardon non mérité. Lorsqu'un prévenu est jugé, condamné et incarcéré, un magistrat pourra le gracier. Et dans ce cas, ce condamné verra sa peine annulée et pourra, dès lors, quitter la prison et réintégrer la société. Le pécheur peut également être gracié. Paul écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Il s'agit bien de la mort éternelle. Paul ajoute, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » N'oublions pas ce que Jean affirme. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ces versets nous font comprendre que si une personne a péché, elle tombe sous la malédiction de la loi et encourt la peine de mort éternelle. Cependant, si cette personne accepte le sacrifice du Christ, si elle se repent sincèrement et décide de vivre dans le droit chemin, selon la bonne manière de vivre qui nous est décrite dans la Bible, alors elle bénéficie de la grâce de Dieu et ses péchés ne lui sont plus imputés, car ils sont effacés. Mais un criminel gracié peut-il commettre d'autres délits? Bien entendu, la réponse est non. Il en est de même pour le pécheur. Le pardon de ses péchés ne l'autorise plus à vivre dans le péché et ainsi dans la transgression de la loi. Voyons ce qu'affirme l'apôtre Paul sur ce point, et n'oublions pas de remplacer le mot « péché » par sa définition biblique qui est la transgression de la loi. En effet, la Bible affirme « Le péché est la transgression de la loi ». Paul écrit « Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, dans la transgression de la loi, afin que la grâce abonde, afin que Dieu doive nous pardonner, nous gracier continuellement ? Loin de là. » Plus loin, il ajoute, « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. » Autrement dit, la grâce qui nous a été accordée, nous autorise-t-elle encore à transgresser la loi, nous plaçant ainsi à nouveau sous la mande de la mort éternelle, sous la malédiction de la loi qui réclame notre mort ? Non, il n'est pas question que nous retombions dans notre vie de péché, dit Paul. Le véritable chrétien doit suivre les instructions bibliques, se soumettre à Dieu et recevoir ensuite le Saint-Esprit, cette puissance que Dieu ne donne qu'à celui qui lui obéit. Bien entendu, cette personne garde son libre arbitre et peut toujours se détourner de Dieu et de sa voie. Voilà pourquoi Pierre écrit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. » Étudiez votre Bible et vous apprendrez que la grâce est conditionnelle et accordée lorsqu'on se repent de ses péchés. Nous bénéficions de la grâce divine aussi longtemps que nous restons fidèles à Dieu, que nous observons ses commandements en suivant l'exemple que le Christ nous a laissé. Toutefois, si nous trébuchons, il est toujours possible d'implorer Dieu et d'obtenir son pardon. Quel est donc le rapport entre la grâce et les œuvres? L'apôtre Jacques écrit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres ?» Et il ajoute « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » L'Éternel promit à Isaac d'être avec lui et de le bénir à cause des œuvres de son père Abraham. Quelles avaient été les œuvres d'Abraham? Le récit poursuit en disant « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Paul ajoute « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la plupart de ceux qui enseignent la foi sans les œuvres s'arrêtent ici. Toutefois, la Bible ajoute « Afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Examinez ce passage. Et vous comprendrez que l'homme n'est sauvé que par la grâce divine, par un pardon qu'il n'a absolument pas mérité, mais il est sauvé par la foi de Jésus-Christ. Les œuvres ne procurent donc pas le salut. Et celui-ci n'est pas la récompense d'une vie remplie de bonnes œuvres. Le salut est un don de Dieu, mais attention, c'est un don conditionnel. Je vous répète les conditions imposées par Dieu, le repentir, le baptême et la réception du Saint-Esprit. Et la loi dans tout ceci. La loi divine est une loi d'amour. Elle nous permet de témoigner de l'amour à Dieu ainsi qu'à notre prochain. Elle est sainte, juste, bonne et spirituelle. Certains affirment que la foi anéantit la loi. Qu'en dit la Bible ? Lisons l'affirmation de Paul. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Jean a écrit que « Celui qui n'observe pas les commandements et qui se dit chrétien est un menteur. » Mais comment se fait-il que certains versets bibliques semblent condamner les œuvres de la loi ? Comprenons bien ce que Paul affirme. Ô Galates dépourvus de sens. Les Galates, bien qu'étant nouvellement convertis, retournaient à leurs anciennes croyances païennes. Qui vous a fasciné ? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Tout au long de sa lettre, Paul adresse des reproches à ceux qui se sont égarés en pensant qu'ils pouvaient obtenir le salut par les œuvres de la loi. Mais ces œuvres de la loi, que sont-elles ? Ici, Paul ne parle pas de la loi de Dieu qui est résumée dans les 10 commandements. Non, les Galates se sentaient obligés de pratiquer une autre loi. Paul la décrit. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, c'est le Christ, à qui la promesse avait été faite. Comme nous venons de le voir, à cause des transgressions du peuple, une autre loi fut ajoutée et imposée. Rappelez-vous qu'une loi doit être en vigueur pour être transgressée. Cette loi, donnée plus tard et qui est celle des sacrifices, servait de pédagogue. Elle instruisait le peuple pour le conduire vers le sacrifice ultime du Christ, et elle consistait en des ablutions diverses, des sacrifices d'animaux et autres. Lisez donc ce qu'en disent les livres du Lévitique et des Nombres. Mais maintenant, le Christ étant venu, nous ne sommes plus sous cette loi, sous ce pédagogue. Ces rituels étaient une préfiguration du sacrifice du Christ. C'est cette loi-là qui n'avait de valeur que jusqu'au sacrifice ultime du Fils de Dieu. Elle n'avait été donnée que jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à la mort de notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle elle est devenue sans valeur aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez maintenant qu'il ne suffit pas de mener une vie conforme aux lois de la morale pour arriver au salut. Ne commettez pas l'erreur de croire cela et ne vous laissez pas abuser.